Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée avec nous à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur, et je suis bien heureux de vous revoir, de vous reparler, d'être avec vous autres encore une fois aujourd'hui. Et cette semaine, bon, on s'est débarrassé d'un fatigant. Daniel est pas là. Yes! on a Luc avec nous, ce rire sympathique. Salut Luc!
Salut Jean-Benoît.
Luc Desormeaux qui est lui fidèle au poste. Ça va bien?
Oh ouais, je suis pas sûr que c'est débarrassé du bon fatigant, mais en tout cas.
Bah, chacun votre tour, hein?
C'est ça. Chacun notre tour de pas vous fatiguer.
Sauf que, tu sais, je me dis, hey, je me débarrasse d'un fatigant, mais si je me débarrasse des deux, il y a comme plus de chaud. Fait que, tu sais, c'est comme un mal nécessaire, tu sais.
Ah, tu serais capable de travailler tout seul puis de faire ton propre show en ayant des discussions super intéressantes avec toi, ton toi-même.
Hey, t'as-tu déjà pensé à ça, toi, JB? Ouais, ouais, pas mal. Ça ferait bizarre à long.
Ça tombe bien, justement, je pensais à ça, drette, là.
Je m'étais pas dit ça, là, mais... Non, mais tout ça pour dire que j'aime faire le show avec vous autres. Fatigant, oui, un peu, là, mais on a du fun, hein? C'est surtout pour ça qu'on fait ce beau programme qui est la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Et cette semaine, comme on est deux, on va pouvoir s'étendre un petit peu plus sur nos sujets respectifs. Moi, je vais vous parler d'un film qui est passé complètement inaperçu. Un film qu'a dirigé Keanu Reeves, c'est sa première expérience derrière la caméra. Et en plus, il jouait dans le film. C'est lui qui campe le rôle du méchant. C'est intéressant de le voir dans cet angle-là. Il a toujours été le bon gars au cinéma. Là, pour une fois, c'est lui le bad guy dans ce film. Ça s'appelle Man of Tai Chi. Une belle petite découverte. Vous devriez apprécier. Amateur de films d'arts martiaux chinois, asiatiques, les films de combat à main nue. Vous devriez aimer ça, mais je vous en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Et Luc, toi, tu nous arrives avec la critique du tout dernier Splinter Cell qui est sous-nommé Blacklist.
Ouais, c'est ça, tu sais, le petit bout qu'on était supposé couper dans le dernier podcast, finalement, que tout le monde a entendu, là. C'est ça, là, cette partie-là.
Le show est enregistré live to tape, OK? Là, des fois, oui, on fait des mini-coupures quand il arrive des bugs audio, des affaires de même.
Genre à toutes les semaines quand on se trompe et on recommence. Non, c'est pas vrai.
Puis des fois, ben, on oublie de faire le montage.
Ben, non, des fois, on est juste JB dans ce cas-là, parce que c'est lui qui fait le montage. Donc, je me dis ceci complètement du problème que vous avez eu sur le dernier épisode, c'est tout de la faute à JB. Je le pointe avec des grosses flèches en néon.
Écoute, quand on fait des erreurs, on a de l'air plus humain, puis ça nous rapproche du peuple.
Oui, mais comme j'ai toujours dit, l'erreur est humaine et il y a des gens qui sont beaucoup plus humains que les autres.
Oui. Et donc, Splinter Cell Blacklist, c'est pas une surprise, sauf qu'on ajoute notre fameuse tendance qu'on a comme commencé depuis fin 2013, un petit fail on the side. On essaie de trouver à chaque semaine un petit quelque chose sur lequel on peut déverser notre venin. Et là, ben toi, tu voulais nous parler un petit peu d'Apple, ta petite mésaventure. Qu'est-ce qui s'est passé au juste, là?
Ben, nous autres, on a un centre de support où ce que je travaille, puis...
Je pensais que tu allais dire la réalité augmentée, un centre de sport full big.
Puis on a acheté deux iMac flambant neufs, puis à la date qu'on les a commandés, on pensait les recevoir avec iOS 10.8, puis je me disais, bon, ben, quand je vais en recevoir un des deux, je vais en garder un à 10.8, puis un à 10.9, parce qu'on a des clients qui appellent avec des versions différentes de Mac. J'ai reçu les deux avec 10.9 parce que ça a pris comme trois mois avant que j'y aille.
Et tu peux pas revenir en arrière les mises à jour chez Apple, hein? C'est très compliqué. Hein?
Ils te laissent pas revenir en arrière et même si j'ai un DVD d'installation pour iOS 10.8, quand je le mets dans le Mac, il me met un gros rond avec une barre dedans en disant « tu peux pas faire ça ».
T'as pas le droit!
Fait que, c'est super le fun à Apple puis tout ça, puis je veux dire, ils ont des super bons produits, mais c'est le fun à utiliser en autant que tu restes dans l'espèce de voie qui t'ont tracé. Si tu essaies de sortir de cette voie-là, c'est bonne chance.
On l'a vu souvent avec les iPhones, les iPads, tu sais, l'iOS, le truc qui sert à rouler le bidule, là.
Ouais.
souvent, quand il y a des mises à jour, donnez-vous un 2-3 jours. Attendez que le monde découvre les bugs avant de les faire, les mises à jour. Parce que des fois, là, tu te retrouves avec des petits pépins que tu n'aurais pas voulu vivre. On a appris ça avec le temps. Apple sont pas parfaits. Hein. Des fois, il arrive des petits anicroches. Donc, donnez-vous un petit peu de temps. Ça peut être avantageux.
Mais le problème avec Apple, c'est que c'est jamais leur faute. Puis,
non, c'est ça.
C'est jamais grave.
On tient mal le téléphone. C'est des affaires de même, là.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'en parlais justement l'autre jour. Puis, au salon de l'auto, j'étais allé au salon de l'auto à journée média le 16. Puis, j'ai utilisé mon iPad mini pour la raison pour laquelle mon iPad mini a été acheté. C'est quand j'avais été au salon de l'auto de Détroit l'année passée, j'avais trouvé ça tellement fatigant de traîner ma grosse caméra SLR avec ma caméra vidéo pour prendre du vidéo puis du film. Puis là, tu finis juste à dire, bon, ben je vais en choisir une des deux, puis l'autre, tant pis. Mm-hmm. Et je faisais juste prendre ma SLR. Fait que finalement, il n'y a pas de vidéo qui a été tournée là-bas, ou presque pas. Fait que là, cette année, je me suis dit, ben, tu sais, avec un iPad mini, c'est facile à traîner, tu peux faire de la photo, tu peux faire de la vidéo, tu peux tweeter, tu peux Facebooker. Et je suis vraiment désolé pour les gens qui m'ont comme ami sur Facebook parce que jeudi passé, ça y a été au toast.
Ouais, c'était assez salon de l'auto, hein?
C'était pas mal juste ça. Puis c'est juste public, là, donc si vous voulez voir tout ce que j'ai mis sur Facebook, juste à me chercher sur Facebook, c'est Luc Desormeaux. Puis ce qui est public, vous allez voir, c'est tout ce que j'ai mis du salon de l'auto. Puis il y en avait un après l'autre. Là. Il y avait une présentation, je mettais des photos avec les autos cachées, avec les voiles dessus. Puis quand il envoyait les voiles, ben, quand il enlevait les voiles, ben là, je mettais une photo de l'auto qui avait été dévoilée. Fait que ça a été assez intense. Mais c'était pour ça que mon iPad avait été acheté. Fait que là, je prends des photos. La nouvelle Mustang a été dévoilée en plus. Fait que là, moi, fan fini, j'étais comme aux anges. Je prends une couple de belles photos de la Mustang.
Luc a pleuré.
Ouais, c'est ça. J'avais une petite larme. Puis là, je me suis dit, je vais mettre ça comme fond d'écran sur mon iPad. Même les photos prises avec ton iPad ne fit pas comme fond d'écran. Ils zooment la photo trop grande.
Ça, c'est ce que tu disais là, dans notre spécial fin d'année 2013. Hein?
Ouais. J'en parlais justement dans la 50e. Puis je me disais, tu sais, je sais pas, tu télécharges une photo d'Internet d'un site, tu connais pas sa résolution, sa grosseur originale, ça, je peux comprendre.
Ça se peut, tu sais.
Mais là, je prends une photo avec la caméra du dit appareil. Est-ce que le dit appareil pourrait me la foutre comme fond d'écran?
C'est un dit tata appareil.
Tu sais, pourrais-tu me le mettre comme fond d'écran, comme puis que ça marche? Mais là, tu sais, c'est marqué, à l'écran, c'est marqué, tu sais, avec vos doigts, vous recadrez, tu sais, puis tout ça. Mais j'ai beau la recadrer. Quand je la tiens avec mes doigts, elle est exactement à la bonne grandeur. Aussitôt, j'enlève mes doigts, plouf, elle revient à une grosseur où c'est juste la grille de l'auto d'en face avec les deux phares en avant. C'est comme, non, j'aimerais ça voir l'auto complète. C'est pas juste un zoom des lumières de l'auto.
T'sais. Ça te prend l'option clic droit, tu zoomes avec tes deux doigts, là, avec un petit doigt on the side, pac! Clic droit, ça existe
même
pas.
Même si j'ai essayé, non, ça marche pas. Fait que c'est toutes des petites affaires comme ça où ce que on voit qu'ils sont pas parfaits. Puis je me dis, tu sais, ça marche super bien si tu fais ce que l'appareil est supposé faire. Si tu essaies de faire des choses un peu plus poussées, on te met des bâtons dans les roues, c'est assez incroyable. Nous autres, on a acheté deux copies totalement légales, là, je ne sais pas, downloadées d'Internet sur des torrents de iOS 10.6 puis iOS 10.7 pour supporter justement des appels de clients puis tout ça. Puis je peux même pas télécharger le 10.7 que j'ai acheté sur mon iMac avec 10.9 parce qu'il me dit « Ah, cet OS ne peut pas être installé sur votre Mac. » Non, mais si j'aimerais ça le télécharger puis l'installer ailleurs, je peux-tu?
Non.
J'ai payé pas, tu sais, ça m'a coûté 20$. Tu peux pas.
C'est exactement pourquoi le piratage, je pense, existe à la base. C'est qu'à un moment donné, si tu veux faire de quoi et qu'on t'empêche quand t'as été légalement à faire ton achat, pourquoi tu peux pas utiliser ton produit comme tu le veux, tu sais?
Ouais, c'est
pourquoi,
ça.
Pourquoi tu me le barres? Laisse-moi faire, tu sais. Je suis en pleine conscience de ce que je suis en train d'opérer, là, de ce que je suis en train de faire comme opération. Laisse-moi faire.
Parce que sinon,
je vais peut-être avoir le goût de te pirater pour pouvoir te contourner puis faire ce que je veux faire pour vrai, tu sais.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est juste comme écœuré, carrément écœuré le monde qui veut te donner leur argent.
Mmh. Ouais, vraiment.
Regarde, mais c'est des super bons produits, je veux dire. Les deux iMac qu'on a achetés sont magnifiques. Je veux dire, c'est super le fun à utiliser. Un coup, tu sais un peu où aller pour faire tes choses. C'est vraiment amusant. Mais, tu sais, faut que tu l'utilises dans le cadre où où Steve Jobs et Tim Cook ont décidé que tu allais l'utiliser.
C'est pas en dehors de ça, ça se peut pas.
Non, tu peux pas. C'est une autoroute sans sortie.
Ils ont pensé à toutes les options. S'ils n'ont pas pensé, ça n'existe pas. Bon, c'est tout.
S'ils ont pensé, c'est que c'est pas nécessaire. Mais bon, c'est une saga qui continue. Ah. Je travaille là-dessus depuis 2 jours pour essayer d'être capable de monter quelque chose pour supporter tout le monde. Puis je suis en train d'y arriver.
Ah, ça viendra bien.
C'est sur Windows. J'ai fait la même chose avec des produits Windows. C'est tellement plus facile.
Ouais, c'est plus modulable. Hein?
Tu peux faire à peu près ce que tu veux, puis il n'y a aucun problème.
Ça a l'avantage de ses défauts. Hein? La stabilité d'Apple est compensée par sa rigidité. C'est ça. Toujours ça.
Oui, mais c'est un peu ça.
Deuxième sujet pour toi, Luc, de ton côté. On va y aller avec ton jeu que moi aussi, je suis en train de traverser. Parce que je l'ai reçu comme cadeau de Noël. Ça donnait bien. C'est un jeu que j'attendais énormément. J'avais adoré Conviction, le titre précédent. Et là, ben, on y va avec la critique. On va pouvoir jaser. On a même joué en coop ensemble à distance. On a fait quelques missions ensemble. Tu nous parles de Splinter Cell Blacklist, le tout dernier Tom Clancy dans l'univers de Splinter Cell.
Oui, c'est ça.
Sam Fisher. Je cherchais le nom du personnage.
Sam Fisher, oui. Tom Clancy qui est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps.
Oui.
Une grande perte parce que c'était un très, très bon écrivain pour ce genre de livre de action, terrorisme, puis tout ça. Là. C'était vraiment super bien ce qu'il faisait.
C'est vrai que le gars, hein, il voulait rentrer dans l'armée, puis il a pas pu. Fait qu'il a fait comme, ah, OK, je vais faire d'autres choses. Puis il est resté dans son rêve. T'sais. Le gars, il voulait faire l'armée, il voulait être dans les opérations secrètes, puis tout. Puis il était chercher l'information pour pouvoir utiliser ça comme source d'inspiration pour ses livres. Donc, c'est un gars qui a, il a rattrapé son rêve on the side. Il était capable d'aller chercher par la voie de droite, en contournant, tu sais.
C'est ça. Puis il s'en vient même avec un nouveau film de Jack Ryan. La série qui a commencé avec, je pense, c'est Baldwin. Puis après ça, c'est Harrison Ford qui a pris la place. Après ça, il y en a un aussi avec, c'est-tu Ben Affleck qui avait pris le rôle entre un autre. Puis là, ça va être un nouvel acteur qui va prendre ce rôle-là. Donc, un nouveau film de l'univers de Tom Clancy qui s'en vient avec Jack Ryan.
J'ai hâte de voir The Division qui s'en vient aussi dans cet univers-là. Prochain jeu qui devrait sortir en 2014. Ça risque d'être pas mal dans les derniers là, avec la bannière Tom Clancy. Là.
Ça se pourrait. Ils peuvent rester dans l'univers, là, mais il faut que ce soit des histoires originales faites par les studios et non pas par l'écrivain de cette série-là. Ouais.
OK, Blacklist, allons-y.
Ouais. Donc, on joue encore le rôle, on campe le rôle de Sam Fisher. Moi, je vais dire tout de suite, j'ai découvert Splinter Cell avec Conviction. Je connaissais Splinter Cell avant, mais j'étais vraiment pas intéressé à jouer parce que moi, toujours me cacher dans l'ombre pour tuer du monde en silence puis avoir zéro chance de me faire voir, puis surtout je me fais voir que la mission est terminée, ça m'intéressait pas et c'était ça vraiment avant Conviction où on a changé un peu la mécanique de jeu. Donc j'avais vraiment trippé solide sur Conviction, mais c'est une histoire plus personnelle de Sam. Je sais pas si tu avais joué à Conviction.
Oui, écoute, c'est un de mes jeux fétiches. J'ai dû le traverser à peu près 12 fois. Là.
Et ça, c'est une histoire plus personnelle. Sam Fisher devait sauver sa fille qui s'était fait enlever puis qui pensait même qu'elle était morte à un moment donné. Donc, c'était vraiment l'histoire de Sam qui se battait même contre Échelon 4, là, qui était sa gang avant. Donc, c'était ça. Fait que c'était vraiment plus personnel. Là, dans Blacklist, on revient Sam est revenu à Échelon, mais là, il y a une attaque terroriste contre une base militaire américaine où tout le monde se fait tuer. Puis c'est une menace terroriste d'une gang qui s'appelle les Ingénieurs. Puis eux autres veulent finalement attaquer tous les pays puis faire que les États-Unis arrêtent de se battre dans certains pays. Puis tout ça, fait qu'ils veulent menacer et tuer autant qu'ils peuvent pour gagner leurs points. Donc, on joue encore le rôle de Sam qui doit arrêter ces personnes-là pour en les éliminant de différentes manières. Le jeu, on commence avec en apprenant un peu comment ça fonctionne. On a un avion qui est un paladin énorme à notre disposition. La seule chose que je trouve bizarre un peu, et puis c'est comme ça dans plusieurs jeux, c'est bon, tu fais partie de l'armée américaine, t'es au top du top du top de l'armée américaine.
Je sais ce que tu t'en vas, je sais.
Puis ben, finalement, faut que tu gagnes de l'argent pour acheter tes équipements.
Bon, ouais. Okay. Comme dans n'importe quel RPG, hein, tu sais, l'univers est en train de mourir, là, tu sais. Le démon de pas tant de choses va tuer tout le monde, mais le marchand est capitaliste au point qu'il préfère mourir que de donner son stock. Il pourrait faire ça.
C'est toi le seul qui peut sauver l'univers, mais si tu veux cette dague qui va te permettre de tuer le démon de la fin du jeu,
paye
5$.
Paye.
Tu sais, fait que c'est, je trouve ça vraiment un peu bizarre, un peu trop. Je veux dire, on aurait dû juste nous faire débarrer des capacités à mesure qu'on avance dans l'histoire et non pas dire ouais, bon ben je te donne 5$.
Toutes tes améliorations, c'est au fur et à mesure de tes missions, selon tes résultats que tu vas avoir l'argent, tu sais, voyons donc, tu vas aller de l'avant, tu sais, mais le top de l'avion tout de suite, tu sais, le gouvernement américain là, commande.
Tu sais, donne-moi ce que j'ai de besoin pour faire la mission que tu veux que je fasse, tu sais. Ouais. Bon, fait que ça, il y a ça qui est un peu plate, donc on s'en va dans des missions, le but c'est parfois de pas se faire voir, parfois on peut rentrer dans le tas puis c'est pas tellement grave. C'est pas nécessairement hyper difficile. Bon, moi, je le joue jamais au mode démoniaque de la mort qui tue.
Toi, tu
non, je joue en mode normal.
Au mode plaisant, là.
Ouais, c'est ça, parce que sinon, à un moment donné, tu fais juste faire semblant de te tourner, puis l'ennemi t'a vu. Là. Donc, c'est beaucoup un mix dans ce jeu-là de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. De ce que j'aime, du sens qu'à un moment donné, tu peux juste rentrer dans le tas, puis c'est pas grave. Que ce que j'aime pas, hein. Faut toujours que tu te caches dans l'ombre puis que t'élimines du monde un par un. C'est le fun à un moment donné. Mais à un moment donné, ça vient comme juste un peu trop. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on nous a donné les moyens de pouvoir se faire de l'ombre. Donc, la première mission, c'est simple. Faut aller éteindre des espèces de génératrices où il faut se rendre à une certaine place pour être capable de bon passer au niveau suivant. Puis là, on s'en vient, puis il y a plein de gardes qui se promènent. Là, ça marche partout, puis faut tuer les gardes ou pas. On a le droit d'y aller létal ou pas, donc vous pouvez choisir le style que vous voulez. Moi, je me dis, tant qu'à jouer à ce genre de jeu-là, on va faire du cadavre. Normalement, je me promène, puis je vais essayer d'en tuer le plus possible, parce que quand on tue, ça te donne une coupe de pièces. Puis on a même des genres, si vous voulez gagner 10 000 $ de plus, utilisez 5 fois le AK-47, tu sais, ou tuez 5 ennemis au couteau, ou tu sais, peu importe, fait qu'on... On nous pousse à tuer du monde de certaines manières ou d'utiliser certaines armes pour avoir des bonus d'argent pour améliorer notre paladin puis notre équipement avec ces choses comme ça. Donc, la première mission, c'est pas tellement difficile. On se rend puis on a un ami avec nous, mais à un moment donné, il est là, puis à un moment donné, il est comme plus là. Il va faire d'autres choses pendant que nous autres, on continue sur le... pour finir la mission. Il faut se cacher puis pas se faire voir par la lumière. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut tirer à un moment donné avec un silencieux. On peut tirer les lumières pour les éteindre, pour pouvoir se faire des ondes d'ombre pour passer puis se cacher. Le premier niveau, je pense que je l'ai recommencé comme 10 fois juste parce que je m'en allais tranquille, tout penaud, puis là, j'en tuais un. Puis là, je prenais le cadavre, j'allais le cacher. T'sais. C'est le fun parce qu'on peut ramasser les cadavres, aller les cacher, ce qui est super pratique des fois, parce que des fois, vous pensez que l'ennemi a une routine super précise où il va passer là, il va passer là, et là, il va revenir, là, il va arrêter, là, il va repartir, puis il va faire toujours le même trajet. Des fois, ça va changer. Puis je me suis fait prendre des fois à dire, OK, ça fait 4 fois que je meurs, le gars passe toujours là, moi, l'attendre. Puis il arrive en arrière de toi. Puis là, c'est comme, ah, toi. Là, je t'aime pas. Fait qu'il faut toujours faire attention. Ils peuvent changer leur routine dépendant de ce que vous allez faire. Fait que là, il faut tirer des lumières. Il y a des niveaux où vous allez recommencer 3-4 fois. Comme le premier niveau, j'ai commencé plusieurs fois. Puis j'essayais de comprendre
bon, la évident, mécanique. Celui-là. Hein?
Non, ben où faut aller. Parce que là, il faut que tu comprennes le système de flèches qui dit, OK, ton point de mission, c'est là. Fait que c'est là, faut que tu te rendes. Mais là, t'as plusieurs différentes manières de t'y rendre.
T'es en plein jour, il y a plein de monde en plus. Moi, j'ai pas trouvé évidente. Là. J'ai trouvé, en tant que tutoriel, pas facile.
Non, c'est ça. Fait que là, on se rend, puis on passe à notre prochain niveau. Il y a différents bug. Là j'ai pas terminé le jeu. Je suis rendu supposément où on sait c'est qui le méchant, puis on va aller le chercher. J'ai des gros doutes que le jeu se termine là, parce que si oui, ça fait à peu près 6 heures que je joue. Je vais savoir ça dans les prochaines semaines, mais que j'ai le temps de rejouer puis de vraiment le finir. Mais si c'est vraiment ça, le jeu est vraiment court. Il y a sûrement des gens qui écoutent qui ont déjà joué, qui l'ont fini, puis qui disent « Oui, c'est court comme ça. » Je vais être bien déçu. Mais je pourrais dire, à date, là, je l'aime. Il est amusant, mais je l'aime moins que j'ai aimé Conviction. Conviction, on avait plus l'impression d'être un peu plus libre de ce qu'on voulait faire. L'univers était assez grand. Je me rappelle de certaines scènes dans Conviction où on est comme dans un cirque, puis t'as plein de kiosques, puis là, tu peux te cacher, tu peux aller n'importe où, faire le tour par en arrière, puis revenir de l'autre côté pour surprendre l'ennemi, puis te cacher, puis sauter par-dessus les tables, puis tout ça. Puis dans un moment donné, puis ça, j'en parlais justement quand on est sorti de faire la 50e émission dehors, j'en parlais, je me disais, à un moment donné, il y a une mission où le but, c'est de rentrer dans une espèce de forteresse où les méchants sont placés. Puis, bon, c'est simple, la porte est juste là. Tu arrives, tu commences, puis la porte est juste en avant de toi en rentrant. Tu as 2-3 ennemis à tuer pour avoir la paix. Puis après ça, la prochaine gang d'ennemis, le prochain groupe d'ennemis est l'autre côté des portes. Là, je regarde un peu. Je dis, OK, on peut jouer tactique. Je vais essayer ça, voir jouer tactique si je vais apprécier. Là, je commence à regarder mon environnement. Je dis, ah! Je viens de voir quelque chose. Là, tu regardes le chemin à gauche, puis là, il y a un beau gros passage, puis ça fait le tour, puis là, tu vois, il y a une porte l'autre bord. Je dis, hey, je vais faire le tour, je vais les prendre par surprise en les prenant par en arrière. Là, je m'en vais, je marche, puis là, je vois, il y a une espèce de muret de ciment, puis à côté, c'est totalement ouvert, c'est un chemin. Je dis, ben, je vais passer à côté du muret de ciment, puis je m'en vais. Mais non, le muret de ciment, il est à droite, puis à gauche, ben c'est un autre muret de ciment, mais ils ont comme oublié de le mettre. Donc, c'est un mur invisible, puis mon cher Sam Fisher est en train de faire du moonwalk. Il se prenait pour Michael Jackson. Il avançait pas, puis les jambes, ils marchaient pareil comme s'il avançait, mais non, il était pris là. Puis il n'y avait pas de mur en avant de moi, il n'y avait absolument rien. Puis là, je me suis dit, bon, ça a l'air que mon plan d'être atoureux et de tomber au vidange. Fait que j'ai rentré par la porte principale, puis j'ai canardé tout le monde. Mais tu sais, tu penses que tu vas pouvoir faire certaines choses, mais on t'attend avec un mur invisible. Ce que j'aime un peu moins, c'est un jeu qui est plus difficile que Conviction. Conviction, où j'ai vraiment eu de la misère dans une des missions.
Il pardonnait Conviction.
Conviction pardonnait beaucoup, sauf une mission qui pardonnait pas du tout. Puis tu vas peut-être t'en rappeler parce que tu as peut-être sacré autant que moi en le faisant. C'est celle dans le stationnement.
Oui, c'est vrai.
Avec les caméras, puis les lumières.
Là, ben, c'était tous des alliés, fait qu'il fallait pas toucher à personne, tu sais. Puis fallait apprendre les routines de tout le monde. Ouais, non, c'était pas facile.
Ben, y a une mission un peu comme ça aussi dans Blacklist, puis je la comprends plus ou moins parce que tu rentres dans une base à un moment donné, puis c'est « Ah, faut pas que tu tues personne. » Puis à un moment donné, tu passes un certain point, puis c'est « OK, tu peux tuer tout le monde rendu là, mais t'es dans la même base. »
Mais c'est avec l'agent soviétique ou whatever, là, russe, puis pour t'amener jusqu'à la bonne place, il veut pas que tu touches à personne. Il arrive de quoi, puis après ça, ben tu fais comme « Bon, ben, écoute, j'ai pas le choix de m'en sortir, donc de la merde. »
Tu qui tu veux. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Conviction, t'es pour moi plus le fun à cause de ça. C'est que tu peux faire plus ce que tu voulais. Le monde avait l'air plus grand. Tu avais des amis qui t'aidaient, qui fallait que tu sauves ta fille. C'était plus personnel. Là, c'est oui, il faut que tu sauves les États-Unis, mais tu as un ennemi, tu sais pas nécessairement c'est qui. On le découvre à mesure de jouer le jeu. Il y a des missions qui sont le fun. Il y a une mission qu'on a faite en coop où tu avais quelqu'un avec un drone puis un canon, puis il fallait faut tuer les ennemis qui se présentent dans la rue pendant que l'autre se faufile pour aller à un point précis. Puis après ça, quand l'autre est rendu à son point, c'est lui qui prend le drone puis qui canarde pendant que l'autre s'en vient. J'ai trouvé cette mission-là assez intéressante. L'autre mission qu'on a fait après, ça finissait plus, monnaie avec la tête nucléaire, là, ouais. Ou ça, là. C'est comme
il y avait trop de salves d'ennemis, là. Il y avait ben trop de monde, puis c'est pas fait, c'est un third-person shooter, là. C'est pas fait, ce jeu-là, pour rentrer dans le tas tant que ça, tu sais.
C'est ça.
Puis là, on était deux, fait que deux fois plus de chances de se faire voir. Les ennemis, grosses mitraillettes, fait que ça finissait plus. Là.
C'était comme garde-robe générateur d'ennemis, là. Fait que c'est ça. C'est pas plate, mais j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trippé. Parce qu'à un moment donné, tu sais.
Probablement qu'en coop, dans le salon, là, les deux ensemble, à la même place, un petit peu de jaser. Là, on était à distance, c'est, on n'a pas le point de vue de l'autre. C'était plus difficile pour la communication. Peut-être que coop local, c'était mieux, là, mais on n'a pas pu le tester. Là.
Peut-être. Mais ça reste un excellent jeu. Il y a aussi un mode en ligne qui est les espions contre les mercenaires. On peut jouer en ligne aussi. On peut jouer en coop, on peut jouer seul. La carte est immense. On choisit les missions à partir de notre paladin. Puis il y a des missions qui sont coop seulement et des missions qui sont seulement seules aussi. Fait que c'est un jeu qui est quand même diversifié. Il y a plusieurs choses à faire. Je le trouve moins bon que Conviction, mais c'est quand même un excellent jeu. Je vais y donner un 8 sur 10, parce que je pense qu'il mérite d'être joué. Faut juste vous attendre à... C'est un jeu plus d'infiltration qu'un jeu à la Ghost Recon ou un jeu à... Pas à la Ghost Recon, mais à la
au premier
Call
Splinter
of
Cell.
Duty puis Battlefield. Là. C'est plus infiltration, faut faire attention. On peut pas juste tout le temps rentrer dans le tas. Il y a des missions où faut pas se faire voir. Aussitôt que vous vous faites voir, la mission est finie, il faut recommencer.
Surtout les missions secondaires. Ils sont très traîtres là-dessus, avec pas de point de sauvegarde nulle part. Je les ai trouvés particulièrement difficiles. C'est peut-être moi qui aurais dû m'avancer plus dans le mode histoire pour débloquer plus de capacités. Mais j'essaie de faire beaucoup de missions secondaires au départ. Puis j'aurais dû faire l'inverse. Ça, c'était très, très dur, là.
Ça, faut augmenter nos armes et tout ça. Faut apprendre à travailler avec ce qu'on a aussi. Il y a des caméras glues qu'on peut coller sur les murs. Puis si on la colle à la bonne place, on voit les ennemis passer. Puis on peut envoyer un peu de chloroforme pour les endormir, ce qui est quand même pas pire. Mais faut pas qu'un autre ennemi passe puis voit l'autre dormir à terre parce qu'il va déclencher l'alarme. On peut cacher les cadavres. Comme je disais, il y a certaines missions, c'est super pratique parce que les ennemis font des rondes, puis c'est pas parce qu'il a passé à droite un coup qu'il passera pas à gauche le coup d'après. On peut appeler les ennemis aussi, on peut leur siffler après pour qu'ils viennent nous voir, puis on peut après ça les maîtriser. Il y a une mission là, dans une espèce de bidonville qui est vraiment super intéressante aussi. Il y a des chiens aussi, il faut faire attention. Les chiens peuvent nous attaquer. Il y a plein de choses, mais j'ai eu une mission où le chien avait l'air un peu probablement comme le mien. Il devait avoir engagé l'intelligence artificielle de mon chien pour faire ce chien-là parce que il m'a jamais trouvé. Pourtant, j'étais là. Puis à un moment donné, c'était le fun. J'ai trouvé une place où il y a comme un corridor en deux sections. Puis il n'y a jamais de soldats qui passaient là. Fait qu'à un moment donné, je tuais un ennemi, je le pitchais là. Je tuais un ennemi, je le pitchais là. Quand j'ai repassé, après, j'avais vidé le village. Il y avait comme une pile de 40 cadavres dans le corridor.
J'ai jamais
la même place. Fait que c'est quand même bien. On peut avoir bien du plaisir. On peut soit juste déposer le cadavre ou le lancer plus loin dans un trou. Fait que, on a différents modes de jeu. J'ai eu bien du plaisir, mais moins qu'avec Conviction.
C'est probablement un retour aux sources. Là, ceux qui trouvaient Conviction, qui le décriaient comme étant trop différent du restant de la série, ben sachez que Blacklist revient plus aux sources. C'est peut-être plus pour vous autres.
Un petit peu plus, mais il y a encore du rentre-dedans. Là. Il y a plusieurs missions. Plus que dans Conviction, il y a plus de missions où il ne faut pas se faire voir. Mais je veux dire, un coup qu'on est habitué, ça travaille bien. Il faut juste travailler dans l'ombre, puis se cacher, puis les tuer tranquillement, puis tout ça. Ça se fait bien. Il y a beaucoup de snipers aussi dans des niveaux. Il ne faut pas se faire voir par le sniper. Il faut essayer d'aller le tuer lui avant de tuer les autres parce que lui, il scanne avec son fusil.
Il y a une mission avec les... t'es comme dans la gare de train, t'as les snipers à l'autre bout, il y a des mines à terre, t'as du monde en armure lourde que tu peux pas headshotter, tu sais, avec... parce que quand tu fais des mises à mort au corps à corps, t'achèves la personne sans qu'elle t'ait vu ou des choses comme ça, tu débloques des exécutions, tu peux cibler jusqu'à 3 personnes, puis tu peux sur le bouton en question, puis oups, ça va déclencher la suite d'action, tac, 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 tu vas tuer les 3 personnes one shot, t'sais. Mais ces ennemis-là en armure lourde, tout ce que ça va faire, c'est leur enlever leur casque. Donc, il va survivre à ça, puis il va savoir que t'es là, t'sais. Donc, écoute, cette mission-là, avant que tu trouves le bon chemin, le bon timing avec les gardes, je fais oh boy, ok, ça va être off. Je trouvais que c'était bien, ça mettait la barre assez haute, mais c'était réalisable. Il y avait plusieurs options pour arriver à ses fins, mais je trouvais que c'était assez retard comme mission, là.
Ouais, y en a qui sont plus heureux que d'autres. Sinon, mais c'est amusant.
Donc, un beau 8 sur 10, c'est un jeu qui est à découvrir.
Oui, puis il est plus tellement cher. Je pense qu'il est rendu 39,99. Il a vraiment baissé de prix assez vite.
Moi, j'ai eu pour Noël.
Bon, mais toi, si tu l'as eu gratis,
ah, c'est cool. Moi, je vais y aller avec mon film Man of Tai Chi. C'est un film, vous avez probablement jamais entendu parler de ça. Et vous avez raison, je pense que c'est sorti direct au DVD, là, tu sais, direct d'un bac. C'est un film qui a été fait par Keanu Reeves. C'est lui qui est le directeur sur ce film-là, c'est lui qui a fait la réalisation. C'est un scénario de Michael Cooney. Écoute, demande-moi pas qu'est-ce qu'il a fait dans
la vie. Ses parents le
connaissent. Oui, grandement, il connaît vraiment beaucoup leur enfant.
Oui, ça a l'air que c'est un bon gars aussi.
Oui, il est sympathique avec ses amis. Là.
Aucune idée.
Tout ça pour dire que Keanu Reeves, c'est la première fois qu'il passe derrière la caméra, qu'il réalise un film. Et, somme toute, c'est assez réussi. C'est un film qui n'a pas une très, très grande ambition. Okay? C'est pas un film qui va rentrer dans les annales, qui va être dans le top 10 des meilleurs films de la vie. Là. C'est pas ça. C'est juste un film qui est honnête. Il a un but qui est de montrer des scènes de combat d'arts martiaux le fun, puis il atteint son but. C'est tout. C'est juste un film d'action comme ça. C'est l'histoire de Tiger Chen. D'ailleurs, c'est le nom de l'acteur. C'est son vrai nom. En tout cas, ça c'est drôle. Tiger Chen, qui est un spécialiste de Tai Chi, qui est reconnu comme étant plutôt un art pour la relaxation. C'est presque comme vu comme une danse par les autres arts martiaux. Puis finalement, il kick des haches. Il est vraiment puissant. Et lui, ben, commence à se battre et est remarqué par Keanu Reeves et son organisation. Demandez-moi pas c'est quoi le nom de Keanu Reeves dans le film, le nom de son personnage, j'en ai aucune idée. Il a pas réussi à me faire oublier son vrai nom, tu sais. C'est pas comme d'autres acteurs qu'on a vus, comme, mettons, Christian Bale. Quand il joue Bruce Wayne, c'est Bruce Wayne, tu sais. C'est pas... On l'a vu, Tony Stark, c'est plus l'acteur, là, que je me rappelle même pas son nom, c'est Tony Stark, tu sais, qui réussit à faire oublier qui il est pour le bien du film, tu sais, pour le personnage. Keanu Reeves, c'est pas le cas là-dedans, ça reste Keanu Reeves, c'est correct, tu sais. Et il est le bad guy de l'histoire. C'est un gars qui est à la tête d'une société, semble-t-il, de sécurité, ok? On en connaît très très peu sur l'histoire de la société. C'est un homme hyper puissant, on te le montre. Ça doit pas être un film avec un gros 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 budget, ok? On le voit une fois dans un beau char de riche. Puis la deuxième fois, il est dans un concessionnaire en train de magasiner un char de riche. Fait que, tu sais, probablement qu'ils ont filmé dans la salle. Ils sont allés faire un dessin avec la plaque, avec un Z, là. Non, c'est un X, hein, les plaques d'essai.
Ouais, c'est ça, un X.
Ils ont filmé la scène. Oh, merci, bonsoir. Puis ils ont reporté le char, tu sais.
Le personnage là, de Keanu Reeves, c'est Donaka Mark.
Ah, ben voilà, tu sais, Donaka. Merci Luc, aucune idée.
Merci Wikipédia.
Oui, merci Wikipédia. Donc cet homme-là, son organisation hyper riche, semble être très très puissant, organise des combats. Qui sont vrais. Là. Il n'y a pas, le personnage de Keanu Reeves l'explique dans le film, il n'y a pas de règles, si ce n'est qu'il faut que tu clenches ton adversaire. C'est ça le but. Des combats qui se font entre... deux personnes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui abandonne, qui soit plus capable de se lever. Et à un moment donné, c'est d'ailleurs la scène d'ouverture, t'en as un qui a, semble-t-il, atteint, tu sais, il a monté les échelons, puis il est arrivé au sommet, puis là, on lui dit, ton adversaire, il est à terre, achève-le. On lui demande de tuer son adversaire. Le combattant qui est en train de gagner le combat refuse, et on voit un personnage arrivé avec un masque noir, vêtu tout de noir, qui achève avec un... Tu sais, tord le cou de celui qui était dans le coma à terre, l'achève.
T'es sûr que son nom, c'est le nom de son personnage? Je pense qu'il y a une erreur dans Wikipédia, c'est pas Shang Tsung.
Oh, ça, écoute, c'est pas grave.
Le nom de son nom, ça ressemble bien gros à Mortal Kombat, ton affaire. Là.
Oui, oui.
En passant, Shang Tsung, c'est le grand méchant dans Mortal Kombat, juste au cas où.
Ben, c'est pas Mortal Kombat, mais écoute, j'avais une note là, dans mes pours. Concept, entre parenthèses, Mortal Kombat. C'est vraiment, il y a une grosse inspiration. En tout cas, okay. Laisse-moi continuer là, le synopsis.
C'est Mortal Kombat 3, finalement.
Ouais, genre. OK. Donc là, le personnage tord le cou de l'autre, il meurt. Personnage avec le masque noir, puis habillé tout en noir. Là, on retrouve le combattant qui a gagné dans le vestiaire. Là, on voit le bonhomme avec le masque noir. Il enlève son masque, arrive dans le vestiaire, et c'est Keanu Reeves. C'est lui. Et poignarde le combattant en question qui a pas voulu tuer l'autre.
OK.
Cette tranche d'histoire-là aura comme pas vraiment de suite dans tout le reste de l'histoire. Ne sera pas expliqué. Côté scénario, c'est ordinaire. Il y a des side stories aussi. T'as comme une policière qui enquête sa patente, le gars qui s'est fait poignardé, il avait contacté la police parce que il trouvait ça comme trop débile. On l'amenait vers des affaires qu'il voulait pas faire. Fait que là, elle a fait une enquête là-dessus, tu sais. Puis là, son boss, il dit non, laisse tomber, tu n'as pas de preuve. Puis là, elle est entêtée. Elle continue son enquête. On a peu d'informations là-dessus, tu sais. C'est comme un side story qui aboutit pas. Même affaire, le personnage de Tiger Chen, il fait du tai chi, il a son maître, il a un temple. Et le temple, semble-t-il que, écoute, le gouvernement veut l'abattre pour faire des, je sais pas trop quoi là, mais tu sais, il y a du monde qui veulent prendre possession des lieux.
Faire un parking pour le char que le personnage de Keanu Reeves vient de s'acheter.
Peut-être. donc, lui, Tiger, ça va comme devenir une motivation pour aller se battre, parce qu'au début, il voulait pas, mais là, il y a de l'argent en jeu. Il gagne beaucoup d'argent, tu sais, il va pouvoir gâter son monde, aider son maître. Histoire qui achève pas vraiment non plus, tu sais, on a comme essayer de mettre du rembourrage un peu qui aboutit pas, tu sais. Mais l'important, c'est les combats. C'est si t'aimes ça, là, les combats à main nue, arts martiaux, spectaculaires, va le voir pour l'histoire.
Ou loue-le, plus.
Oui, parce que, comme je te dis, je pense pas que c'est présenté au cinéma à quelque part dans le monde. Si tu veux voir le film pour les scènes d'action, vas-y. C'est super bon, c'est très ingénieux, c'est des beaux combats. Mais si tu as le goût d'avoir une histoire, tu sais, d'avancer avec des personnages qui grandissent à travers des péripéties, tu sais, non, c'est pas pour ça. Mais ça reste quand même, somme toute, un assez bon film. OK, ceci étant dit, le synopsis, voilà, c'est ça. C'est pas bien plus compliqué que ça. Les gars vont monter dans la hiérarchie jusqu'à l'événement final. Bon, voilà. Concept simple. Moi, j'aimais ça. J'aime ça quand un film a un objectif, aussi petit soit-il, mais qu'il l'atteint. Non, mais dans le sens que...
te divertir?
Oui, mais tu sais, non, ce que je veux dire, c'est que le film voulait raconter ça, des combats. Ben, il réussit à le faire, puis ce qu'il vise principalement, il le fait bien. Il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un film, exemple, un film qui se veut humoristique, puis qui tombe complètement à côté de la plaque, qui n'atteint pas son objectif. Laisse faire, d'abord, tu sais. Mm-hmm. Si tu veux faire de quoi, là, essaye pas de faire du rembourrage. Oups, excusez, j'ai comme poigné le micro. Je gesticule, là, je suis comme tout énervé. Laisse faire, tu sais, si t'es pour avoir besoin de 12 affaires alentour de ton concept de base pour tenter que ton film soit intéressant, puis que tu rates la cible sur les 12 trucs, laisse faire. Concentre-toi sur ton objectif principal et atteins-le. Man of Tai Chi atteint son objectif principal. Ce pourquoi on va aller le voir, c'est pour ça. Pour les combats, c'est ça que tu veux voir? Tu vas aller voir ça et tu vas être satisfait. Les chorégraphies sont géniales. Tiger Chen est badass. Il est vraiment fort. Tu le vois évoluer en tant que combattant, de gêné, mais tu vois qu'il y a quelque chose à vraiment une brute à la fin. J'aime l'évolution du personnage dans cet ordre-là. T'sais, côté vie personnelle, peu importe, en dehors de des combats, le personnage reste assez stagnant. Il n'y a pas grandes évolutions, mais en tant que combattant, le truc principal, encore une fois, ça fonctionne. On voit que le personnage grandit sous cet angle-là. C'est un film qui est simple, mais qui fait bien les choses qu'il tente de faire. Il est efficace. Quand c'est pour les combats, c'est des super belles chorégraphies. C'est esthétiquement très, très beau. C'est un film qui est joli à voir. On fait plusieurs scènes de combat dans une quasiment dans un cachot. Tu sais, quand tu es dans un institut psychiatrique, là, les salles comme toutes feutrées, là, pour pas que la personne puisse se faire mal. C'est dans un genre d'habitacle comme ça. Ça peut être 10 mètres par 10 mètres, un carré très épuré. Puis, tu sais, l'emphase est vraiment mise sur le combat. Ensuite, ça va évoluer. Les scènes de combat vont changer de place. Un peu comme Mortal Kombat. Tu vois, des adversaires, on fait d'ailleurs la première fois que Tiger Chen se bat dans le cadre de cette entreprise-là, de ces combats organisés-là. Il est dans la salle capitonnée où est-ce que rien d'autre. Il se place devant un miroir, on lui dit « Présente-toi. Mon nom, c'est Tiger Chen. OK. Mais tourne-toi sur la gauche. OK. Tourne-toi sur la droite. OK. » Tu sais, comme pour voir sa tête, le présenter, chacun des profils. Après ça, fin salut, combattez. Là, oh, ça décolle, c'est le combat. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu de beat 'em all. C'est un jeu de combat, de baston en film. Et ça, on l'atteint bien. On a des stages, on a des adversaires qui sont typés. On va avoir aussi le personnage. Il a cette portion de combat arrangée par l'entreprise. Et il y a aussi ce qu'on nous présente comme étant un tournoi d'arts martiaux. Il y a un spécialiste de chacun des arts qui s'affronte jusqu'à arriver au meilleur. Et encore une fois, ça sera très typé. Des adversaires très... OK, lui, il a un style de combat. Il va 100% dans ce style-là. Il n'y a pas de nuance. C'est juste all-in dans cette idée-là de présenter des stages, des affrontements à la manière de Mortal Kombat, d'un jeu de combat. Et j'adore ça parce que on s'est pas donné la prétention d'être d'autre chose. On s'est dit, je suis telle affaire et j'arriverai à cette notion-là, j'arrive à ça et j'atteins le but. C'est pour ça qu'il faut voir le film. Dans les contres, oui, Luc?
Non, je dis OK. Mais je trouve que c'est peut-être parce que là, présentement, il y a 49 Ronin aussi. Ou 47 Ronin, excuse.
Moi, 47,
ouais. Keanu Reeves joue un samouraï. Fait que c'était peut-être une manière de se réchauffer.
Oui, peut-être.
Pour ce film-là.
En tout cas, l'ambition est pas mal plus grande pour 47 Ronin. On va se le dire, c'est un film qui a plus d'envergure.
Oui, c'est plus mais gros c'est, budget
c'est,
aussi.
C'est correct, tu sais. Côté, comme je te disais, Luc, et à vous les auditeurs, les side stories, on décolle des affaires, puis on perd ça dans la brume. Ça, on le rate un peu. Je sais pas si la faute vient du scénario, de la réalisation, comment est-ce qu'on a bouclé le... Je sais pas, mais en tout cas, ça tombe un peu mort, ces portions-là. Heureusement, c'est très, très mineur. On passe très peu de temps avec les personnages autres que Tiger Chen et son développement à lui, son histoire à lui. On a très peu de réponses. On a un petit peu, tu sais, à la manière de Tigre et Dragon, tu sais, les combats là, d'arts martiaux, là, où est-ce que le monde flotte un peu, tu sais, puis il arrive des passes, puis là, tu dis, oh, la gravité a oublié de se présenter là-dessus. Là.
OK.
On a un petit peu de ça. Mais rien de flagrant. On a des, mettons, une projection. Là, tu fais comme, OK, il a pitché un petit peu trop fort. Ou il a réussi à grimper sur l'autre ou à leur virer un peu trop facilement. On dirait que c'est une danse. On s'entend au cinéma, quand il y a des combats, c'est une danse, c'est une chorégraphie. On sent qu'il y a un petit peu de, t'sais, d'aide. Il y a un petit peu de cordage, une fois de temps en temps. Mais c'est subtil, c'est pas beaucoup. Mais il y en a quand même un petit peu. Il y a un petit côté fantaisiste là, des films d'arts martiaux. Je sais pas si on a voulu faire ça comme un hommage à la tradition des films chinois et japonais de ce style-là, où est-ce que la magie prend beaucoup de place dans les combats. Mais c'est subtil, ça passe très très bien, sauf dans le combat final, où est-ce que là, c'est un petit peu plus... Là, tu te dis, OK, tu as découvert ça quand, toi, que tu étais capable de faire ça? En tout cas, vous verrez dans le cadre du film. Et Keanu Reeves fait une bonne job en tant que méchant, mais on n'a aucune idée pourquoi il fait ça. On n'a rien qui le motive à être comment il est, pourquoi il fait ça. Il n'y a rien. Et le plus flagrant, c'est le fameux masque. Au début, on le voit avec le masque. On ne la revoit plus. Je ne sais pas c'était quoi cette volonté-là. C'était oublié en cours de chemin. Ah, on avait un masque. On l'a oublié. Il était dans le coffre. On l'a pas. on y a pas pensé, hein? Non, non, non.
Il n'y a pas de budget pour le remettre un autre fois.
Le film est comme...
Ils l'ont cassé, il n'y a pas d'argent pour en faire un deuxième.
La face à Keanu Reeves moulée d'un masque noir, c'est dur à reproduire, tu sais. Non, mais tu sais, dans le sens que c'était cool, tu sais, t'arrives au début, scène d'intro, tu fais comme... Wow, OK, le méchant avec un masque, ça fait comme, tu sais, c'est plus badass encore. Tu fais comme, OK, c'est un vrai méchant, c'est caricatural, mais dans ce type de film-là, ce à quoi je m'attends comme film, ça fait un job. Je fais comme, OK, ça cadre comme étant un méchant obscur puis dangereux, tu sais, il y a comme, s'il n'y a pas de face, il n'y a pas de limite, tu sais. Un faceless enemies, ça, c'est comme un ennemi à la chaîne, mais un ennemi, là, le gros boss, pas de visage, c'est comme... puissance illimitée dans ses capacités, tu sais.
Le Darth Vader chinois.
Voilà. Et on l'oublie tout de suite. Scène d'intro, générique de début, là, quand on start le film, comme du monde, là, après la petite scène d'intro, hop, on l'oublie. C'est comme si... c'était comme un featuring. Je sais pas pourquoi, je sais pas quand on est arrivé à cette idée-là. La seule notion que je peux voir, c'est que les combats sont filmés. Puis il voulait pas se faire voir, mais c'est jamais expliqué. C'est moi qui devine ça. J'y vais d'une hypothèse.
OK, peut-être.
J'ai pas de confirmation, mais c'est mon hypothèse. En tout cas, tout ça pour dire que cherchez pas trop de réponses. Hein. Man of Tai Chi, ton cerveau, là, ça dure 1h45. Donne-nous un break. ton cerveau, là. Une petite pause.
Trouvez le piton off.
Ouais, voilà. Donc, écoute, c'est un bon petit divertissement. Pour ce que ça vaut, pour ce qu'on te propose, ça remplit ses promesses, puis c'est correct comme ça. Je vais y aller avec un sincère 7.5 sur 10, parce que tu sais à quoi t'attendre, puis c'est ce que t'as, puis moi, dans ce temps-là, j'aime ça. Je me sens pas floué, je sens qu'on a été honnête envers moi, puis j'ai le goût de donner une petite tape dans le dos. Keanu Reeves, tu fais une bonne job, c'est un bon premier essai. Pas trop d'ambition, puis c'est correct. Tu sais, tant qu'à te péter à gueule, au moins, ça aurait pu passer inaperçu. Là, au moins, tu te pètes pas à gueule, puis c'est une belle petite découverte à faire.
Non, c'est ça. Puis je regardais les critiques sur le web, puis ça a quand même 71% à Rotten Tomatoes.
Voilà.
C'est quand même pas si pire.
Puis IMDb, 6,1, c'est une très, très bonne... je trouve que c'est un score qui est tout à fait louable pour ce genre de film-là. Moi, je trouve ça bien correct, là. C'est pas à négliger. C'est tout à fait honnête. C'est le mot d'ordre, honnête. C'est ça. Donc, voilà pour ce film-là, 7.5. C'est la note du petit GB sur Men of Tai Chi. Ben cool comme petit film, mais il faut le voir pour les bonnes raisons. Alors, c'est pas mal là-dessus qu'on va compléter pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Luc, je veux que tu me dises où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web. T'as même un petit show pour nous autres, là, le podcast Toto qui a un petit soubresaut de vie pour le Salon de l'Auto de Montréal.
Oui, on a fait un spécial enregistré cette semaine, qu'on a enregistré lundi, qui est présentement en ligne sur iTunes. Si vous tapez Podcast Auto, vous allez voir ça. On a fait un spécial, moi et Martin Sagala. On a jasé du Salon de l'Auto de Montréal. On va aussi faire un autre spécial d'ici quelques semaines. On va faire un spécial Ford Mustang pour le lancement de la nouvelle Mustang. On va jaser de ça. On va faire un historique de la Mustang. On va aussi parler un peu de la nouvelle Mustang qui a été dévoilée. Ailleurs, partout dans le monde le 15 décembre, mais elle a été dévoilée au Salon de l'Auto de Montréal aussi. On l'a vu en chair et en os, si on peut dire ça, d'une voiture, en tôle et en acier. Fait qu'on va faire une petite émission spéciale là-dessus. Sinon, ben c'est ça, il y a les anciens épisodes du podcast auto, vous pouvez écouter. Il y a aussi Histoire des Gamers, qui a 22 épisodes disponibles sur Internet. Puis vous pouvez aller voir aussi, j'ai écrit des articles en marge du Salon de l'Auto de Montréal. Le site est peut-être un petit peu dur à trouver, mais c'est kijijiblog.ca. C'est le blog du site de vente de petites annonces classées, là, Kijiji. Donc, si vous voulez aller lire ça, sinon sur Twitter, c'est @scalazormo. Fait que j'ai assez parlé. Toi, JB, si on est comme, tu sais, on se sent obligé de te jaser, qu'est-ce qu'on fait?
J'espère que les gens ne se sentent pas obligés. J'espère.
Je sais pas, des fois, plate. Le monde peut avoir pitié. Tu sais.
Ouais, peut-être, mais ça serait le fun que ce soit pour le fun. Tu sais,
pour le plaisir de la chose.
Ouais, tu sais, ça pourrait être le fun. Tu sais.
Peut toujours être surpris.
Oui, je peux être agréable. Je veux juste, avant de dire où est-ce qu'on peut me retrouver, tantôt, je parlais de Iron Man, puis que l'acteur a réussi à faire oublier que, tu sais, Tony Stark, c'est pas lui, là, c'est un personnage.
Genre Robert Downey Jr.
Voilà, c'est, j'ai eu complètement un blanc, mais je sais qui, là.
Hein? Je te laissais t'enfoncer dans ta...
Merci, Luc. Hein. C'est là qu'on voit que t'es un vrai...
À un moment donné, ça va venir, tu sais, mais c'est ça. C'est donc, excellent, je verrais pas personne jouer Iron Man autre que lui.
Ben, c'est ça, voilà. Tout ça pour dire que moi, on me retrouve personnellement sur Twitter, @gangj_b. J'ai le compte sur Twitter de la réalité augmentée, @realitéhog. On a toujours une adresse courriel, podcastrealitéaugmentée@gmail.com. Si vous voulez jaser avec nous autres, c'est toujours par là que ça se passe. Autant sur les réseaux sociaux que si vous voulez un gros message, plus que 140 caractères, c'est possible via notre adresse courriel. On a une page Facebook sur laquelle on vous met plusieurs liens sur des trucs de l'actualité dans le domaine du jeu vidéo. On veut discuter avec vous autres, on veut vos opinions. Il y a Daniel, le seul qui n'est pas illettré dans les trois, qui sait écrire, qui met... non, c'est une farce, on sait écrire, mais... On se donne pas la peine.
Mais pas bien.
Oui, ouais, vu de même. Daniel qui met des articles qu'il présente sur affairesdegas.com qu'il retransmet via la page Facebook de la réalité augmentée. facebook.com/realitéhog. C'est aussi simple que ça de nous rejoindre. On est toujours présent sur le site internet de la zone technoculturelle sur affairesdegas.com aussi. On salue les auditeurs de Radio H2O maintenant qui font partie, qui nous ont accueillis dans la grande famille de cette chaîne de podcast, cette web radio. On les salue. D'ailleurs, je serai éventuellement là, en tournée de promotion sur les différents shows de la chaîne pour que les auditeurs des autres émissions viennent nous écouter. Donc, éventuellement, on vous salue. Ah, bienvenue. Et aussi, on a appris une bonne nouvelle cette semaine, Luc. Je t'en ai glissé mot. On sera diffusé sur les ondes de la radio d'Amos, Radio Boréal, éventuellement. Ils sont en train de renipper là, leur grille horaire. Et une fois que ce sera fait, on va commencer à être diffusé là-bas aussi. Donc, notre emprise sur le monde s'agrandit minute par minute, jour après
petit
jour.
Petit à petit.
Oh, oui, éventuellement, on va dominer la planète. Ça s'en vient. Ça risque d'être long, là. Mais ça s'en vient.
Ouais, ça peut être bien, bien long.
Retenez pas votre souffle.
Non. Attendez pas ça pour un avenir rapproché.
Ah non, non. Mais c'est un plan, ça s'en vient. Tout ça pour dire qu'on vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois pour la réalité augmentée. C'était Jean-Benoît Gagné et Luc Desormeaux. Et on vous remercie. Et on vous dit à une prochaine fois. Salut tout le monde!
Bye!